du monde. Ah oui.
Bref, vous ne pourrez pas trouver le livre à 8 euros aux éditions Libertaria, Grève générale.
Mais c'est pas encore Noël, un peu de temps.
Oh non, mais ils peuvent l'acheter pour les vacances, là, pour lire ça sur la plage. Et puis, bah, un truc, bah, alors, lisez Le Monde Libertaire, hein, bien sûr. Mais on va quand même faire un appel pour ciné mensuel. Voilà. Bon, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Madame Sinet, Catherine Sinet, sur les élections. Mais bon, c'est quand même un canard qui, un mensuel, justement, avec des dessinateurs qui sont, bah, qui me font marrer. Souvent.
Qui sont bons.
Que j'aime aussi, bien. Voilà. Et puis, bah, vaut mieux ça que Charlie Hebdo. Moi, je suis ciné. Je suis pas Charlie, je suis ciné. Et ben vous pouvez faire un don pour soutenir effectivement le journal. Voilà. Faut passer par l'association Presse et Pluralisme. Soit c'est par carte bancaire et il faut suivre le lien ciné, en toutes lettres cinemensuel.com/don, D-O-N, soit par chèque à l'ordre de Presse et Pluralisme, /opération cinémensuel. Voilà, c'est envoyé groupe audience AUDIENS, Presse et Pluralisme, CS 90 100, 125, 27 091, Évreux, CEDEX 9. Voilà, bah, vous serez obligé de réécouter en boucle le podcast pour avoir cette adresse. Sinon, bah, vous achetez Ciné Mensuel, mais pas trop fort, je suis en train de parler. Voilà, vous achetez Ciné Mensuel, voilà, pour un numéro double, juillet-août, et puis soutenez, envoyez un don, voilà. Et puis achetez toute la presse libertaire. Et puis, on vous passera au cours des semaines prochaines, des rediffusions, sinon on se retrouve en direct live septembre. Au revoir à tous, merci. Salut. Bénédicte, Eric, et
bel été.
À bientôt, ciao.
Ciao, ciao.
Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir. Ce soir, dans le Proton se rebiffe, nous allons découvrir un excellent livre de Richard Sennett, S-E-N-E-T, dont le titre est « Ce que c'est la main, c'est comme savoir, la culture de l'artisanat ». Donc « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat », c'est paru dans la collection Espace Libre chez Albin Michel. De quoi parle ce livre ? Précisément, nous voyons deux mots que souvent nous ne voulons pas associer, culture et artisanat. Le fond du livre, c'est une défense et illustration et éloge de la technique. Attention, la technique est un mot qui est devenu, hélas, chargé. En effet, de nos jours, la technique, et pire encore le mot technologie, évoque par exemple les grandes sociétés informatiques Google, Amazon, Facebook et compagnie qui sont en train de détruire l'esprit humain. Mais la technique, c'est également le savoir-faire de l'artisan. C'est d'ailleurs quelque chose que presque tous les êtres humains possèdent, à un degré ou à un autre. Il y a franchement peu d'êtres humains qui ne maîtrisent pas une ou deux ou plusieurs techniques. Ce que veut faire Richard Sennett, c'est donc lutter contre la contamination du sens positif du mot technique par son sens négatif. Il s'y prend d'une manière intéressante et historiquement on ne peut plus valable parce qu'il nous rappelle que le mauvais côté de l'extraordinaire développement scientifique, intellectuel, culturel de l'humanité a signifié que souvent les personnes qui possèdent, comme disent Bourdieu, un haut capital culturel méprisent les personnes dont l'excellence réside principalement dans la possession d'un savoir-faire artisanal en général et d'un savoir-faire artisanal manuel en particulier. Et l'une des méthodes que Sennett va employer pour cette défense et illustration de la bonne technique va être de montrer que dans la possession de la technique artisanale, il entre une part extrêmement importante d'activité intellectuelle. Puis, dans l'autre sens, il nous montrera plus tard aussi que on ne peut pas avoir une grande capacité intellectuelle, culturelle, sans que le corps y ait eu sa part, sans que l'apprentissage du et des gestes n'ait permis au cerveau et à son activité intellectuelle de se développer. Le prologue développe très bien ses idées. Je commence donc à vous lire le prologue. Juste après la crise des missiles de Cuba, en ces jours de 1962, où le monde vacilla au bord d'une guerre atomique, je croisais dans la rue mon professeur Hannah Arendt. La crise des missiles l'avait secouée comme tout le monde, mais elle l'avait aussi confortée dans sa conviction la plus profonde. Dans le livre « La condition de l'homme moderne », elle avait soutenu quelques années auparavant que l'ingénieur, ou quiconque faisait des choses matérielles, n'est pas maître en sa demeure. La politique, située au-dessus du travail physique, doit fournir les grandes lignes. Elle en était arrivée à cette conviction quand le projet de Los Alamos déboucha sur les premières bombes atomiques en 1945. Et voici qu'au cours de la crise des missiles en 1962, les Américains trop jeunes pour avoir connu comme elle la Seconde Guerre mondiale éprouvèrent à leur tour une peur bleue. Il faisait un froid de canard dans les rues de New York, mais Arendt fit comme si de rien n'était. Elle tenait à me voir en tirer la bonne leçon. En règle générale, pensait-elle, les gens qui font ne comprennent pas ce qu'ils font. Cette peur qu'avait Hannah Arendt d'une invention matérielle suicidaire remonte, dans la culture occidentale, au mythe grec de Pandore. Zeus envoya sur Terre en châtiment de la transgression de Prométhée, Pandore. Dans les Travaux et les Jours, Hésiode la décrit comme le don le plus amer de tous les dieux. Quand elle ouvrit sa boîte, elle dispersa parmi les hommes les peines et les maux. Maux, M-A-U-X. Au cours de la formation de la culture grecque, les peuples helléniques en vinrent de plus en plus à croire que Pandore représentait un élément de leur propre nature. La culture fondée sur des artefacts court perpétuellement le risque de se retourner contre elle-même. N'importe quelle chose, innocente ou presque, peut engendrer ce risque chez les humains. Séduit, émerveillés, excités, curieux, hommes et femmes se créent une fiction et finissent par se convaincre qu'ouvrir la boîte est un acte neutre. À propos de la première arme de destruction massive, Arendt aurait pu citer une note des carnets de Robert Oppenheimer, directeur du projet de Los Alamos, qui se rassurait en affirmant, ouvrez les guillemets, « Si vous voyez quelque chose de techniquement alléchant, vous allez de l'avant et vous le faites. Vous ne discutez de son usage qu'une fois la réussite technique acquise. C'est ainsi que ça s'est passé avec la bombe atomique. » Fermez les guillemets. La génération d'Arendt pouvait chiffrer la peur de l'autodestruction avec des chiffres si vertigineux qu'ils émoussaient l'esprit. Les 50 premières années du XXe siècle avaient compté au moins 70 millions de morts dans les guerres, les camps de concentration, les goulags. Pour Hannah Arendt, ces chiffres sont un composé d'aveuglement scientifique et de puissance bureaucratique. Des bureaucrates qui ne pensaient qu'à accomplir leur travail. L'emblème en était à ses yeux le pourvoyeur des camps de la mort nazie, Adolf Eichmann, auquel elle attacha l'étiquette de « banalité du mal ». De nos jours, la civilisation matérielle du temps de paix affiche des chiffres tout aussi vertigineux en matière d'autodestruction. 1 million, par exemple, c'est le nombre d'années que la nature a pris pour créer la quantité de carburant fossile que l'on consomme aujourd'hui en une seule année. La crise écologique est une création de l'homme, entre guillemets, pandorique. Et la technologie pourrait bien être une alliée peu fiable pour reprendre le contrôle de la situation. Dans le mythe antique, les horreurs de la boîte de Pandore ne sont pas la faute des hommes. Les dieux étaient en colère. En des temps plus séculiers, la peur de Pandore désoriente davantage. Chez les inventeurs des armes atomiques, par exemple, la curiosité se mêlait à la culpabilité. Les conséquences involontaires de la curiosité s'explique difficilement. La fabrication de la bombe emplit Oppenheimer de culpabilité, tout comme I.I. Rabi, Léo Szilard et beaucoup d'autres qui travaillèrent à Los Alamos. Dans son journal, Oppenheimer rappelle les mots du dieu indien Krishna « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Des experts qui ont peur de leur propre expertise, que faire de ce paradoxe terrible ? Si les experts sont bien incapables de donner un sens à leurs travaux, qu'en est-il de l'opinion ? Je soupçonne qu'Arendt ne savait pas grand-chose en physique, mais elle releva le défi d'Oppenheimer. Que le grand public s'en charge ! Elle était profondément convaincue que ce grand public pouvait comprendre les conditions matérielles qui étaient son lot et que l'action politique pouvait affermir la volonté de l'humanité d'être maîtresse des objets, des outils et des machines. S'agissant des armes de la boîte de Pandore, m'expliqua-t-elle, il aurait fallu un débat public sur la bombe alors même qu'on la mettait au point. À tort ou à raison, elle pensait que la discussion n'aurait pas empêché de protéger le secret du procédé technique. Alors que j'étais son étudiant, voici un demi-siècle, je trouvais largement dans sa philosophie une source d'inspiration, mais elle ne me semblait pas tout à fait à la hauteur pour traiter des choses matérielles et pratiques concrètes que contenait la boîte de Pandore. Toute la difficulté d'Arendt face à la boîte de Pandore résidait, me semblait-il vaguement alors, plus clairement aujourd'hui, dans la distinction qu'elle établit entre animal laborance et homo faber. Comme son nom l'indique, l'animal laborance est l'être humain proche de la bête de somme, l'abruti, condamné à la routine. Hannah Arendt enrichit cette image en l'imaginant plongé dans un état qui laisse le monde dehors, état qui illustre parfaitement le sentiment d'Oppenheimer que sa bombe atomique était un problème suave, ou l'obsession d'alimenter les chambres à gaz d'un Eichmann. En l'occurrence, la seule chose qui importe, c'est que ça marche. Pour l'animal laborance, le travail est une fin en soi. En revanche, L'Homo Faber est pour Hannah Arendt l'image des hommes et des femmes qui se livrent à une autre espèce de travail, qui font une vie en commun. Là encore, Hannah Arendt enrichit une idée reçue en héritage. L'expression latine « homo faber » signifie tout simplement « l'homme qui fait ». La formule apparaît dans les écrits de la Renaissance sur la philosophie et les arts. Deux générations avant Arendt, Henri Bergson l'avait appliqué à la psychologie, Hannah Arendt l'applique à la politique de façon bien particulière. Pour elle, l'homo faber est le juge du travail matériel et de la pratique. Il n'est pas le collègue de l'animal laborance, mais son supérieur. Dans son idée, les êtres humains que nous sommes vivent dans deux dimensions. Dans l'une, nous faisons des choses, et dans cette condition-là, nous sommes amoraux, absorbés dans la tâche. Mais nous avons aussi un autre mode de vie, supérieur, dans lequel nous cessons de produire pour nous mettre à discuter et à juger ensemble. Alors que l'animal laborance se fixe sur la question du « comment », l'homo faber demande « pourquoi ?». Cette division me paraît fausse, parce qu'elle méconnaît l'homme concret au travail. L'animal humain, qui est animal laborance, est capable de penser mentalement. Le producteur peut discuter avec certains matériaux plutôt qu'avec d'autres. Et les gens qui travaillent ensemble se parlent de ce qu'ils font. Pour Hannah Arendt, l'esprit intervient une fois le travail accompli. Et suivant une autre approche plus équilibrée, non, il entre dans le faire une part de réflexion et de sensibilité. Or, laisser le public régler le problème une fois le travail accompli signifie mettre les gens face à des faits habituellement irréversibles. L'engagement doit commencer plus tôt. Il requiert une meilleure intelligence, plus complète, du processus par lequel les hommes entreprennent de produire. Un engagement plus matérialiste que celui des penseurs de la veine d'Hannah Arendt. Affronter la boîte de Pandore requiert un matérialisme culturel plus vigoureux. Le mot « matérialisme » devrait susciter l'alarme. L'histoire politique récente du marxisme l'a avili, souillé, tout comme la fantaisie et la cupidité du consommateur moderne dans la vie quotidienne. La pensée matérialiste est obscure aussi parce que la plupart d'entre nous, nous nous servons de choses comme les automobiles et les ordinateurs que nous ne fabriquons pas nous-mêmes et que nous ne comprenons pas. S'agissant du mot « culture », le critique littéraire Raymond Williams en a dénombré plusieurs centaines d'usages modernes. Ce jardin verbal sauvage se compose, grosso modo, de deux plates-bandes. Dans l'une, la culture ne représente que les arts. Dans l'autre, les croyances religieuses, politiques et sociales qui lient un peuple. Trop souvent, du moins dans les sciences sociales, la culture matérielle fait peu de cas des vêtements, des circuits imprimés ou du poisson cuisiné, jugé peu digne d'intérêt en soi, au lieu de voir dans la façon de ces objets physiques un reflet des normes sociales, des intérêts économiques et des convictions religieuses. La chose en soi est négligée. Il nous faut donc ouvrir une page blanche. Nous pouvons le faire simplement, en nous demandant, même si les réponses, elles, sont loin d'être simples, ce que la fabrication de choses concrètes nous révèle de nous-mêmes. Apprendre des choses requiert d'être attentif aux qualités du tissu ou à la façon de pocher un poisson. Un beau tissu ou un plat bien cuisiné nous permet d'imaginer des catégories plus larges du bon. En bon sensuel, le matérialiste culturel entend dresser la carte des plaisirs et savoir l'organiser. Curieux des choses pour ce qu'elles sont, il cherche à comprendre comment ces choses peuvent engendrer des valeurs religieuses, sociales ou politiques. L'animal laborance pourrait donc servir de guide à l'homo Faber. Sur mes vieux jours, je souhaite formuler l'objection que mon moi juvénile n'a pu adresser à Hannah Arendt, à savoir que les gens peuvent s'instruire d'eux-mêmes à travers les choses qu'ils font, que la culture matérielle compte. En vieillissant, mon professeur s'est pris à espérer davantage que les facultés de jugement de l'homo Faber pourraient sauver l'humanité d'elle-même. À l'hiver de ma vie, je suis plus optimiste concernant l'animal humain au travail. Il est bel et bien possible de rendre moins redoutable le contenu de la boîte de Pandore. Une vie matérielle plus humaine est à notre portée si seulement nous comprenons mieux la fabrique des choses.
Thank you.
Vous écoutez toujours Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité, 89.4. C'est toujours Le Proton se rebiffe et nous continuons à parler de l'excellent livre de Richard Sennett, Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat. Nous venons de voir que Sennett ouvre son livre en ouvrant la boîte de Pandore et en parlant de ce mythe grec qui parcourt toute l'histoire de la civilisation occidentale depuis les Grecs. Mais attention, les Grecs ont aussi parlé d'un autre mythe, celui de Héphaïstos, Vulcain en latin. Je lis donc ce que Sennett nous dit d'Héphaïstos. L'une des toutes premières célébrations de l'artisan se trouve dans un hymne homérique au maître dieu des artisans, Héphaïstos. Et là, Sennett nous cite quelques vers de cet hymne. « Muse harmonieuse, chante l'illustre intelligence d'Héphaïstos qui, avec Athéna aux yeux pères, enseigna les nobles travaux aux hommes de la terre, tandis qu'auparavant ils habitaient des antres dans les montagnes, comme les bêtes sauvages. Maintenant, au contraire, instruits au travail grâce à Héphaïstos, ils mènent une vie tranquille tout au long de l'année, dans des maisons qui sont leur œuvre. Ce poème, dit Sennett, est contraire à l'esprit de la légende de Pandore, qui pourtant a pris forme à peu près à la même époque. Pandore préside à la destruction, Héphaïstos, l'artisan, lui apporte paix et civilisation. L'hymne à Héphaïstos pourrait sembler ne célébrer qu'un cliché, celui de la civilisation qui commence, quand les humains se sont mis à employer des outils. Mais cet hymne a été composé des milliers d'années après la fabrication d'outils déjà très évolués tels que les couteaux, la roue et le métier à tisser. Plus qu'un technicien, l'artisan civilisateur a utilisé ces outils pour un bien collectif. La fin de l'errance d'une humanité faite de chasseurs-cueilleurs ou de guerriers sans racines. S'interrogeant sur l'hymne homérique à Héphaïstos, une historienne moderne observe que le travail artisanal ayant arraché les hommes à leur isolement, personnifié par les cyclopes séjournant dans des grottes, métier et communauté étaient pour les premiers Grecs indissociables. Alors là, c'est très très intéressant, parce que nous allons voir que tout au long de son livre, Richard Sennett affirme, à mon sens avec raison, que l'artisan ne fabrique pas seulement des objets, il fabrique de la communauté. Revenons donc à son texte que je continue à vous lire. Le mot qu'emploient les hymnes pour désigner l'artisan est Demiurgos, mot composé de demios, public, et d'ergon, ouvrage. Alors, je parle à nouveau. Donc, évidemment, en français, ça s'appelle un démiurge. Et cette terminaison urge en français, on la retrouve dans la chirurgie, l'ouvrage de la main, dans la sidérurgie, dans la liturgie, etc. Je reprends le texte de Sénèque. L'artisan archaïque grec se situait dans une couche sociale grosso modo équivalente à la classe moyenne. Les démiurgoi comprenaient, outre les travailleurs manuels qualifiés comme les potiers, les médecins, les petits magistrats, les chanteurs et les héros professionnels qui, dans l'Antiquité, diffusaient les nouvelles. Cette tranche de citoyens ordinaires vivait entre les aristocrates oisifs, relativement peu nombreux, et la masse des esclaves qui accomplissaient le gros du travail. Beaucoup avaient de grandes compétences techniques, mais ces talents ne leur valaient aucune reconnaissance ni aucun droit politique. C'est pourtant au milieu de cette société archaïque que l'hymne célébra comme des civilisateurs ceux qui associaient la tête et la main. La Grèce archaïque, comme beaucoup d'autres sociétés que, tout récemment encore, les anthropologues qualifiaient de traditionnelles, tenait pour acquis que le savoir-faire se transmettait de génération en génération. Ce postulat est plus remarquable qu'il ne pourrait le sembler. Dans la société des compétences traditionnelles, les normes sociales comptaient davantage que les dons individuels. On ne pouvait cultiver ses talents qu'en suivant les règles instaurées par les générations passées. Dans ce contexte, le mot très moderne de « génie personnel » n'avait pas grand sens. Se qualifier passait personnellement par la docilité. L'auteur de l'hymne à Héphaïstos, quel qu'il soit, acceptait la nature de ce lien communautaire. De même que pour les valeurs profondément enracinées de toute culture, il semblait aller de soi que les gens s'identifient aux autres artisans comme concitoyens. C'est le savoir-faire qui les liait tant à leurs ancêtres qu'à leurs concitoyens. Mais si, au temps d'Homère, l'artisan était célébré comme un homme public, son honneur s'est estompé dans les temps classiques. Un augure plus sombre des fortunes déclinantes de la nature du métier apparaît ainsi dans les écrits d'Aristote. Dans la métaphysique, il observe en substance, ouvre les guillemets, « Nous estimons que les chefs, dans toute entreprise, méritent une plus grande considération que les manœuvres des artisans, et sont plus savants et plus sages, parce qu'ils connaissent les causes de ce qui se fait. » Fermez les guillemets. Aristote abandonne d'ailleurs le mot ancien « demiurgos » pour employer « kairotechnon », qui veut dire simplement « travailleur manuel ». Ce glissement a eu un sens particulier, ambigu, pour les ouvrières. Depuis les temps les plus anciens, le tissage était un métier réservé aux femmes et qui leur valait le respect dans le champ public. L'hymne distingue les arts comme le tissage, y voyant des pratiques qui ont contribué à civiliser les tribus de chasseurs-cueilleurs. La société archaïque devenant classique, on célébrait encore la vertu publique des tisserandes. À Athènes, les femmes produisaient une toile, le péplos, qu'elles arboraient ensuite dans les rues de la ville à l'occasion d'un rituel annuel. Mais d'autres arts domestiques comme la cuisine n'avaient pas un statut public comparable, et à l'époque classique, aucun art ne valait aux Athéniennes le droit de vote. Le développement de la science antique a contribué au partage des compétences entre les sexes, et dont le craftsman anglais, réservé aux hommes, est l'aboutissement. Cette science opposait la dextérité manuelle de l'homme à la force organique intérieure des femmes vouées à enfanter. Elle opposait aussi les muscles des bras et des jambes plus forts des hommes à ceux des femmes, et supposait même que les hommes avaient un cerveau plus musclé que celui des femmes. Cette distinction genrée sema la graine d'une plante qui vit encore. La plupart des arts et des artisans domestiques paraissent d'une autre nature que les travaux désormais accomplis hors du foyer. Nous ne pensons pas à l'art d'être parent, par exemple, comme à un métier, au même sens que la plomberie ou la programmation, alors même que devenir parent requiert un fort degré de compétences acquises. Le philosophe antique le mieux disposé envers l'idéal archaïque d'Héphaïstos est Platon, qui s'inquiéta aussi de sa disparition. Il fit remonter la compétence à la racine du mot « faire », « poieien ». Le mot « poésie » lui est apparenté. Et dans l'hymne d'Héphaïstos, les poètes apparaissent eux aussi comme une autre espèce d'artisan. Tout métier est une forme de travail animée par la recherche de la qualité. Platon a défini ce but comme « l'arrêté », la norme d'excellence implicite dans tout acte. L'aspiration à la qualité conduira un artisan à s'améliorer, à mieux faire, plutôt qu'à juste se débrouiller. En son temps, toutefois, observa que si les artisans sont tous des poietai, des fabricants, on ne donne pas à ces gens le nom de poietai de poète, mais qu'ils portent d'autres noms. Platon craignait que ses noms différents et ses compétences différentes n'empêchent ses contemporains de comprendre ce qu'ils partageaient. Au fil des 5 siècles qui séparent l'hymne à Héphaïstos du temps de Platon, quelque chose semblait s'être perdu. L'unité des temps archaïques entre compétences et communautés s'était affaiblie. Les compétences pratiques continuaient de porter la vie courante de la cité, mais généralement, on ne les en honorait pas pour autant.
Rock my boat.
Don't rock my boat,
'cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my boat.
Oh please, don't you rock my boat.
Don't
no,
rock
no.
my boat,
'cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my
I'm
boat.
I'm telling you that
Vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Nous sommes toujours le Proton sur Rebif et nous continuons à parler du livre de Richard Sennett, Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat, paru dans la collection Espace Libre chez Albin Michel. Et nous venons d'entendre ce que Sennett a dit sur le mythe d'Héphaïstos, opposé au mythe de Pandore, et un mythe qui est infiniment plus flatteur pour les artisans et pour les personnes qui appliquent des techniques. Et en particulier, il souligne que cet hymne homérique d'Héphaïstos dont il a parlé, eh bien, cet hymne crée, ou plus exactement décrit, un lien fort entre compétence et communauté. Et dans ce qui va suivre, on va être peut-être surpris de voir quelle application étrange du mythe d'Héphaïstos on peut trouver dans quelque chose d'extrêmement moderne. Je reprends donc la lecture du livre de Sennett, incidemment, ça sera page 38. Pour comprendre la présence vivante d'Héphaïstos, j'invite le lecteur à accomplir un saut mental. Les gens qui participent à un logiciel informatique dit open source, c'est-à-dire libre, notamment au système d'exploitation Linux, sont des artisans qui incarnent quelques-uns des éléments célébrés pour la première fois dans l'hymne à Héphaïstos. Les techniciens de Linux illustrent aussi, en tant que groupe, un souci de Platon, quoique sous une forme moderne. S'il ne suscite certes pas le mépris, ce corps d'artisans fait figure de communauté inhabituelle, en vérité presque marginale. Le système Linux est un art public. Le noyau du logiciel sous-jacent en code Linux est ouvert à tous. Chacun peut l'employer et l'adapter. Des gens consacrent une partie de leur temps à l'améliorer. Linux s'oppose au code employé par Microsoft, dont les secrets, voici peu de temps encore, étaient thésaurisés comme la propriété intellectuelle de cette société. Dans Wikipédia, une application courante, populaire de Linux, le noyau du code rend possible une encyclopédie à laquelle chaque utilisateur peut contribuer. À son lancement, dans les années 1990, Linux entendait renouer avec l'aventure des débuts de l'informatique dans les années 1970. En l'espace de deux petites décennies, l'industrie du logiciel avait vu s'imposer une poignée d'entreprises dominantes, rachetant ou éliminant les petits concurrents. Ce faisant, les monopoles semblèrent produire à la chaîne un travail toujours plus médiocre. Techniquement, le logiciel libre suit les normes de l'Open Source Initiative, mais l'étiquette sommaire de logiciel gratuit ne rend pas bien la façon dont les ressources sont utilisées dans Linux. Voyons donc ça de plus près. Eric Raymond distingue utilement deux types de logiciels gratuits. Le modèle cathédrale, dans lequel un groupe fermé de programmeurs développe le code et le met ensuite à la disposition de tous, et le modèle bazar, où tout le monde peut participer à la production du code via l'Internet. Linux met à contribution des artisans dans un bazar électronique. Le noyau a été mis au point par Linus Torvalds, qui, au début des années 1990, est parti de l'idée que s'il y a assez de gens pour participer au bazar de l'écriture d'un code, il est alors bien plus facile de résoudre le problème posé par la rédaction d'un bon code que dans le modèle de la cathédrale, et certainement plus facile que dans le cadre d'un logiciel commercial sous brevet. Voici donc une communauté d'artisans à laquelle s'applique l'antique appellation de Demiurgoi. Elle se focalise sur la qualité et l'excellence du travail, qui est la marque primordiale de l'identité de l'artisan. Dans le monde traditionnel du potier ou du médecin archaïque, les normes d'excellence étaient fixées par la communauté, comme autant de compétences passées de génération en génération. Mais ces héritiers d'Héphaïstos ont fait l'expérience d'un conflit communautaire autour de l'usage de leurs compétences. La communauté de programmation s'attaque aux moyens de concilier qualité et libre accès. Dans l'application de Wikipédia, par exemple, nombre d'entrées sont biaisées, calomnieuses, voire purement et simplement fausses. Un groupe scissionniste entend désormais appliquer des normes d'édition suivant une dynamique qui se heurte de plein fouet au désir du mouvement de former une communauté ouverte. Les éditeurs élitistes ne contestent pas l'efficacité technique de leurs adversaires. Tous les professionnels qui sont partie prenante dans ce conflit sont passionnément soucieux de maintenir la qualité. La lutte est tout aussi âpre dans le champ générateur de la programmation de Linux, car ses membres se trouvent confrontés à un problème structurel. Comment la qualité du savoir peut-elle coexister avec un échange libre et égal dans la communauté? Ce serait une erreur d'imaginer que les communautés de métiers traditionnels transmettant leur savoir-faire de génération en génération, le savoir-faire qu'elles transmettent est fixé de manière rigide. Non, en aucune façon. L'art antique du potier, par exemple, a changé du tout au tout quand on a commencé à utiliser un disque de pierre tournant supportant un bloc d'argile en opposition à la technique plus ancienne qui consistait à poser les uns sur les autres des colombins, des bandes d'argile. Mais ce changement radical s'est imposé lentement. Avec Linux, le processus d'évolution des compétences s'accélère. Le changement est quotidien. Là encore, nous pourrions penser qu'un bon artisan, cuisinier ou programmeur, ne se soucie que de résoudre des problèmes, de trouver des solutions qui mettent fin à une tâche, de mettre un point final. Mais ce faisant, nous ne rendrions pas justice au travail effectif. Dans le réseau Linux, quand des gens écrabouillent un bug, ils voient souvent de nouvelles possibilités s'ouvrir pour l'usage du code. Loin d'être un objet fixe et achevé, le code ne cesse d'évoluer. Dans le système Linux existe une relation quasi instantanée entre la résolution des problèmes et la découverte. Thank you. Vous écoutez toujours Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous sommes toujours dans le Proton sur Rebif, en parlant de l'excellent livre de Richard Sennett, Ce que c'est la main, culture de l'artisanat. Sennett nous parle, pour continuer à défendre, alors, ce qu'il appelle l'artisanat, et ce qu'on pourrait aussi appeler le travail le plus direct possible, le travail où une personne ou un petit groupe de personnes travaille directement, sans trop d'intermédiaires, sur des objets ou des notions ou des œuvres d'art, eh bien, il va nous montrer que beaucoup d'intermédiaires, beaucoup d'outils deviennent des maîtres, incidemment comme fait souvent l'argent, qui devrait être un outil et qui devient un maître. Et il va dédier tout un chapitre à la CAO. Qu'est-ce que c'est que la CAO ? Alors je vous lis le chapitre. Un exemple de ce mauvais usage concerne la CAO, conception assistée par ordinateur, le logiciel qui permet aux ingénieurs de concevoir des objets et aux architectes d'engendrer des images de bâtiments à l'écran. Cette technologie remonte au travail d'Ivan Sutherland, ingénieur du MIT, qui, en 1963, imagina l'interaction graphique de l'utilisateur avec l'ordinateur. Le monde matériel moderne ne saurait exister sans les merveilles de la CAO. Elle permet une modélisation instantanée des produits, des écrous aux automobiles, spécifie précisément leur ingénierie, et commande leur production effective. En architecture, cependant, cette technologie nécessaire ne va pas sans grave danger d'usage malencontreux. Quand la CAO a fait son entrée dans l'enseignement de l'architecture, remplaçant le dessin manuel, un jeune architecte du MIT observa. Quand vous dessinez un site, quand vous introduisez les contre-lignes et les arbres, il se grave dans votre tête. Vous apprenez à le connaître comme vous ne le connaîtrez jamais avec votre ordinateur. Vous apprenez à connaître un terrain en le dessinant et en le redessinant, non pas en laissant l'ordinateur le réengendrer pour vous. Ce n'est pas de la nostalgie, son observation concerne ce qui se perd mentalement quand le travail sur ordinateur remplace le dessin physique. Comme dans d'autres pratiques visuelles, les esquisses architecturales sont souvent des images de possibles, des images de choses possibles. Au fil de leur cristallisation et de leur raffinement à la main, le dessinateur progresse, comme progresse un joueur de tennis ou comme un musicien progresse. Il s'y plonge, il mûrit sa réflexion à son sujet. Le site, observe donc notre architecte, se grave dans votre tête. L'architecte Renzo Piano explique sa façon de travailler ainsi. Vous commencez par faire une esquisse, puis un dessin, puis un modèle, puis vous passez à la réalité. Vous allez sur place, puis vous reprenez le dessin. Vous instaurez une sorte de circularité entre le dessin et la construction, et inversement. À propos de la répétition et de la pratique, Piano observe. C'est tout à fait typique de l'approche de l'artisan. Vous pensez et vous faites en même temps. Vous dessinez et vous faites. Le dessin est revisité, vous le faites, vous le refaites, et ainsi de suite, fermez les guillemets. La CAO peut absorber cette métamorphose attachante, circulaire. Une fois que les points sont indiqués à l'écran, les algorithmes font le dessin. Et le mauvais usage intervient alors si le processus est un système clos, si la circularité dont parle Renzo Piano disparaît. Un physicien expliqua un jour à ses étudiants du MIT, « Quand vous me soumettez le résultat, l'ordinateur comprend la réponse, mais vous, je ne crois pas que vous la compreniez. » La CAO présente donc des dangers particuliers pour la réflexion sur les bâtiments. Parce que la machine est capable d'effacer et de redessiner sur le champ, chaque action est moins lourde de conséquences qu'elle ne le serait avec un dessin. On la considérera avec moins d'attention. Revenir au dessin matériel, au dessin à la main, peut permettre de surmonter ce danger. Plus dur à contrer est le problème relatif aux matériaux dont le bâtiment est fait. Les écrans plats d'ordinateur ne sauraient rendre convenablement les textures des différents matériaux, ni aider dans le choix des couleurs, bien que les programmes de CAO puissent calculer très précisément la quantité de briques ou d'acier qu'un bâtiment pourrait nécessiter. Si fastidieux que ce soit, dessiner des briques à la main oblige le dessinateur à réfléchir à leur matérialité, à s'interroger sur leur solidité, par opposition à cet espace blanc non marqué d'une fenêtre sur le papier. La CAO empêche aussi le dessinateur de penser à l'échelle, par opposition à la simple taille. L'échelle implique des jugements de proportion. Mais à l'écran sur l'ordinateur, le sens des proportions n'apparaît au dessinateur que sous forme de grappes de pixels. L'objet à l'ordinateur se prête certes à des manipulations, par exemple pour le présenter du point de vue de quelqu'un qui se trouve au sol, mais à cet égard, on abuse souvent de la CAO. Ce qu'on voit à l'écran est d'une cohérence impossible. L'image est structurée et unifiée comme on ne la verra jamais dans la réalité. C'était donc ce long passage sur la CAO. En réalité, dans le livre, c'est net de continuer à en parler. Mais je voudrais donner un exemple très simple et qui m'amuse un peu puisque il fait allusion à Renzo Piano. On sait que Renzo Piano, c'est l'architecte du Centre Pompidou à Beaubourg. Et Renzo Piano, là-dessus, avait fait une grosse erreur, même en dessinant d'ailleurs à la main, puisque le Centre Pompidou, comme vous le savez, c'est une forêt incroyable de tuyaux, de tubes et de poutres. Bref, c'est un paradis pour les pigeons. Les pigeons font caca allègrement dans tous les coins. Leurs excréments sont extrêmement acides, bouffent la peinture déposée sur cette forêt de tuyaux, de tubes et de poutres, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles on va lancer dans quelques mois la troisième rénovation du Centre Pompidou, un bâtiment qui n'a pourtant que à peine 50 ans d'âge. Et puis, pour illustrer également les dangers, alors là, de la CAO, puisqu'on peut peut-être imaginer que peut-être Piano n'a pas utilisé la CAO pour dessiner le Centre Pompidou, encore que j'en doute. Il s'agit d'un autre monument parisien, presque aussi connu, ou peut-être encore plus connu maintenant, la pyramide du Louvre. La pyramide du Louvre, et surtout ce qu'il y a en dessous de la pyramide du Louvre, le très grand hall d'accueil qui se trouve exactement sous la pyramide du Louvre, personnellement, je trouve ça très beau. Seulement voilà, cette énorme chape de verre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme une serre. Et qu'est-ce qui se passe dans les serres, S-E-2-R-E? Il fait très chaud. Alors pour les serres, c'est très bien quand on veut faire pousser à des latitudes où ça ne pousserait normalement pas des légumes ou des fruits qui ont besoin d'un climat chaud. Mais au Louvre, sous la pyramide, dès que le soleil brille, on crève de chaud. Et puis ce grand hall, c'est un lieu avec des murs de pierre, c'est une chambre d'écho. Et en fait, la pyramide du Louvre en dessous, c'est donc à la fois une serre et un lieu extraordinairement bruyant. À ce point que Ayempei, l'architecte de la pyramide du Louvre, avait prévu de mettre les guichets d'information exactement au centre, sous la pyramide, mais qu'après quelques années, il a été nécessaire de les déplacer parce que les employés, un, souffraient démentiellement de la chaleur, et deux, mettaient des boules-quies. C'est-à-dire que des employés dont le métier consistait à parler constamment avec des gens, ces gens-là étaient obligés de mettre des boules-quies à cause du vacarme. Et pourquoi est-ce que Pei a commis cette erreur aussi élémentaire? Ben, c'est évident. Effectivement, l'usage de trop d'intermédiaires, l'usage de la CAO au lieu du dessin manuel, lui a fait oublier cette évidence que créer un bâtiment énorme dont le toit est entièrement en verre, cela s'appelle construire une serre et non pas construire un lieu où les êtres humains peuvent demeurer et travailler toute la journée. Un peu plus loin, Sennett parle d'un autre problème qui mine la culture de l'artisanat. Et il s'agit bien entendu d'une idée, ou plus exactement d'une méthode, qui a été fondamentale pour la révolution industrielle. Le taylorisme, le travail à la chaîne, et de manière plus générale, la division extrême du travail. Et le problème qu'il y a dans la division du travail, c'est que quand elle est très poussée, pour chacune des personnes qui sont impliquées dans un travail donné, et qui se trouvent, qui deviennent par conséquent, non pas les acteurs complets du travail, mais simplement l'un des maillons d'une chaîne éventuellement très longue, c'est que pour chacune de ces personnes, il y a primauté de la partie sur le tout. Au lieu de pouvoir considérer la totalité du travail, au lieu de pouvoir considérer en particulier le résultat du travail, la finalité du travail, le sens que ce que l'on fait possède, les personnes impliquées dans la division du travail ne peuvent plus considérer que la toute petite partie qu'ils doivent opérer et qui très souvent perd complètement tout sens et donc tout intérêt. Alors on connaît bien entendu l'horreur du travail à la chaîne, on a vu les films de Chaplin, on sait quelle a été la vie abominable de la plupart des ouvriers occidentaux ou des ouvriers en Occident dans les usines à la chaîne, et on sait à quel point le travail à la chaîne existe encore, en particulier en Asie, et est difficilement différenciable de l'esclavage. Sennett pointe ensuite encore un autre problème, et qui est là un problème qu'il juge extrêmement difficile à résoudre. Alors, il en parle d'abord en termes un tout petit peu surprenants, puisqu'il en parle en termes de différence du tacite et de l'explicite. Qu'est-ce que c'est que le tacite? Eh bien, bah, évidemment, c'est ce qu'on peut décider, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut planifier, sans avoir besoin de le mettre en mots. C'est donc évidemment très souvent quelque chose que font les artisans, qui peuvent décider de quelque chose, qui peuvent lancer telle ou telle action, planifier telle ou telle action, sans avoir besoin de que ça passe dans leur tête ou entre un groupe d'artisans, ou entre un patron et un compagnon, ou un patron et un apprenti, sans que ça passe par un échange de mots. Et puis bien entendu, l'opposé, c'est l'explicite, ce qui passe par le langage. Sennett creuse un tout petit peu plus et dit ceci, c'est la vieille opposition entre le formel et l'informel, et finalement de manière plus pertinente pour le sujet du travail artisanal ou non, c'est aussi la différence entre les règles et l'expérience. L'expérience, par définition, c'est personnel, c'est individuel. Et l'expérience n'a pas nécessairement besoin d'être mise en mots. Elle n'a donc pas besoin d'être formelle, elle n'a donc pas besoin d'être explicite. Alors, la grande difficulté avec l'expérience, c'est que comme elle est personnelle, elle est difficilement transmissible. Et quand on veut transmettre les bénéfices de l'expérience, quand on veut transmettre les tours de main, les savoir-faire, les astuces qu'on a gagnées par l'expérience, eh bien, bien entendu, on est obligé d'en passer, alors très souvent par le langage, au strict minimum, en montrant aux personnes à qui on veut transmettre le tour de main, le savoir-faire. Et la tentation devient grande de formaliser ces résultats de l'expérience et donc de créer des règles. Les règles, les méthodes, les recettes, c'est évidemment extraordinairement pratique puisque cela permet de créer un réservoir de savoir qui va donc permettre à celles et ceux qui n'ont pas encore acquis l'expérience de pouvoir néanmoins profiter immédiatement de l'expérience d'autrui. Et par conséquent, les règles permettent de lutter contre la médiocrité, contre la mauvaise qualité. Seulement, voilà, les règles, donc l'explicite, le formel, posent aussi une grosse difficulté. Les règles enferment la créativité. Elles empêchent même souvent la créativité, puisqu'il faut rester dans les règles. Hein. Une règle, par définition, il faut rester dedans, il ne faut pas la changer. Les règles également rendent très difficiles les adaptations au cas par cas, c'est-à-dire le lien direct avec la réalité. Et donc, les règles rendent difficile la prise en compte des obstacles imprévus ou négligés. Et ce détachement d'avec la réalité, je vais en donner un exemple très simple. Au musée d'Orsay, il y a un tableau de peintre académique, on dit maintenant, on a souvent dit un peintre pompier. C'est un tableau qui représente une famille romaine exilée par Tibère. Alors ils sont dans un canot et il y a des rameurs qui les éloignent de l'île de Capri, et comme ils voient l'île de Capri, c'est-à-dire la résidence de l'empereur Tibère, le père de famille, la mère de famille, et encore une jeune fille, probablement la fille aînée, eh bien, maudissent d'un grand geste de la main Tibère. Bon, très bien. Seulement, voilà, comme c'est un tableau peint par un peintre académique, qui donc respectait les règles de l'académie, comment est-ce que le gars a peint son tableau ? Au lieu d'aller au bord de la mer, de louer un canot, de mettre ses modèles dans le canot, et puis de regarder ce qui se passe et de le dessiner, il est resté à Paris. Et puis il a fait venir dans son atelier un modèle, le papa, il lui a fait prendre une pause. Puis un autre modèle, la maman, il lui a fait prendre une pause. Puis une troisième modèle, la sœur, et puis encore les autres modèles, les autres personnages dans le canot. Et il a complètement oublié des choses évidentes. Et quand on regarde avec attention ce tableau, c'est très drôle. D'abord, il y a tellement de monde sur ce canot que c'est évident, il ne pourrait pas flotter. Ensuite, alors que ce canot est presque à ras-bord, la ligne de flottaison est à peine à quelques centimètres de l'eau, personne n'est mouillé. Ensuite, c'est un canot à rames. Et pourtant, le père de famille, la mère de famille, la sœur, se tiennent absolument droit pendant qu'ils maudissent l'empereur. Donc ils ne font absolument pas attention à leur équilibre. Or, quiconque a passé ne serait-ce que 20 secondes sur un canot à rames sait que rester complètement droit, stable et immobile sur un canot qui est en train d'être tiré à rames, désolé, ça ne fonctionne pas. Alors il y a encore d'autres erreurs absolument ridicules. Par exemple, le soldat romain qui tient le gouvernail du canot, il a, comme tant de soldats romains, un très lourd manteau de laine. Le peintre était certainement très fier de son exactitude historique. Et très lourd manteau de laine est néanmoins soulevé par une bourrasque de vent. Bon, magnifique. Manque de bol, aucun des autres vêtements de la dizaine de personnages dans la barque n'est soulevé par le vent. Alors c'est curieux, c'est juste une bourrasque de vent qui cible exactement une personne sur 10 autres dans une seule barque. Et donc on voit bien là que le peintre a voulu suivre des règles et il a complètement oublié la réalité, il a complètement oublié ce que c'est que 10 êtres humains sur un canot à la barque. Et cette tension entre les règles et l'expérience, bien entendu, c'est extrêmement difficile de la résoudre dans la vie pratique, et elle ne peut être résolue que grâce à une attention constante à l'égard des processus et du travail, ainsi que par un respect constant de l'expérience personnelle, de la culture de la main, de l'autonomie de l'artisan, de l'autonomie de la travailleuse et du travailleur, même si, en apparence, les règles, la division du travail, peuvent permettre une productivité stupéfiante. Je ne saurais trop donc recommander la lecture de cet excellent livre de Richard Sennett, « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat », collection Espace Libre, chez Albin Michel. Je n'ai fait qu'effleurer ce qu'il y a dans ce livre, puisque ce dont je viens de vous parler, eh bien en gros, ça s'arrête à la page 73, et que le livre compte à peu près 400 pages. Donc, lisez-le. Et puis, bien entendu, nous nous retrouvons tous les troisièmes lundis du mois dans le Proton se rebiffe sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Le Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Depuis mon vieux, qu'au fond des cieux tu as fait ton trou, il a coulé de l'eau sous les ponts de chez nous. Les bons enfants, la rue devant va la guetter. L'un comme l'autre, au gré des flots, furent emportés. Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis, tous en restés du parti des Myosotis. Tous ces pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon, en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement papa que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament tu te plais sûrement, mon vieux Léon.
Toi le voyageur, toi l'étranger, assieds-moi les cons. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assieds-moi les cons. Toi qui as parcouru un si long chemin, assieds-moi les cons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assieds-moi les cons. Salam alaikum, aux étrangers, aux voyageurs. Assieds-toi, je t'en prie, mère Bébik, fais-nous cet honneur. Cette tente, c'est ma maison. Ma maison, c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur à accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre, en pensant qu'on t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger, salam alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assieds-moi les bons. Toi qui as parcouru un si long chemin, assieds-moi les bons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assieds-moi les bons. C'est le désert, si courte notre vie, l'homme se croit maître de l'univers. Et si on se voit tout petit, grain de sable, emporté par le vent, nous ne sommes que poussière. Regarde le ciel et contemple, mon ami, la grandeur de l'univers. Tu ne verras jamais autant d'étoiles qu'ici ce soir. Tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire. Sédentaire ou nomade, on fait tout ce que passer. Marcher ou courir sur place, chacun sa vérité. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assieds-moi les bons. Toi qui as parcouru un si long chemin, assieds-moi les bons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assieds-moi les bons. Pays où les maisons montent jusqu'au ciel. Dis-moi mon frère, est-il vrai que ces maisons cachent votre soleil? Est-il vrai que vous travaillez dur jour et nuit pour payer des prisons dans lesquelles vous vous enfermez toute votre vie? Est-ce vrai que vous bâtissez des murs pour mieux vous protéger? Et pour protéger vos murs, sortez les barbelés. Les mirages n'existent pas que dans le désert apparemment. Si un chameau te dit qu'il sait parler, c'est qu'il te ment. Toi le voyageur, toi l'étranger, assieds-moi les bons. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assieds-moi les bons. Toi qui as parcouru un si long chemin, assieds-moi les bons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assieds-moi les bons.
c'est que flippe l'ami. Tout seul à te demander quelle connerie t'as pu faire pour en arriver là. Ton proprio te vire, ta femme se fait la malle, tes enfants ont la honte et tes copains ricanent. Tout le monde te fait croire que t'es un bon à rien, que t'es pas un winner, que t'es pas un battant. T'as du mal à penser, tu vas à la dérive, alors tu penses au gaz, mais le gaz est coupé. Ta dignité, l'ami, tu crois qu'elle est bafouée, car ta vie, tu l'as vouée à de fausses valeurs. La morale du travail, la productivité, l'État et les patrons, leurs mensonges et leurs lois. Tu n'es que la victime d'un complot bien monté, celui de l'exclusion, parfaitement planifié. Pour faire marcher le monde, hier on t'exploitait, aujourd'hui on te jette, ça s'appelle le progrès. Responsable de cet apocalypse, on est seulement coupable d'avoir été aveugle. Nos brillants décideurs, que vont-ils faire de nous? Partager les richesses, faut pas rêver la vie. Mettons-nous une étoile pour mieux nous reconnaître. Repoussons l'exclusion et la pensée unique. Creusons-nous les méninges, caressons l'utopie, réinventons le monde, réinventons la vie.
Radio Libertaire 89.4.
J'ai peur des rues, des quais du sang, des croix de l'eau, du feu, des becs, d'un printemps fragile et cassant, comme les pattes d'un insecte. J'ai peur de vous, de moi, j'ai peur des yeux terribles des oiseaux, du ciel des jours, des fleurs, de l'heure des mets, de vieillir et du vent. J'ai peur de l'aile des oiseaux, du noir, du silence et des cailles. J'ai peur des chiens, j'ai peur des mots et de l'ongle qui les écaille. J'ai peur des notes qui se chantent, j'ai peur des sourires qui se pleuvent, du loup qui hurle dans mon ventre. Quand on parle de lui, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur des cœurs, des pleurs de tout. La trouille, les foies, la pétoche. Les dents qui tremblent et les genoux qui cassent dans le fond des poches. J'ai peur de deux et de fond quatre. De n'importe quand, n'importe où. De la maladie délicate qui plante ses crocs sur tes joues. J'ai peur du silence des voix tremblant dans les magnétophones. J'ai peur de l'ombre qui convoie des poignées de feu vers l'automne. J'ai peur des généraux du froid qui foudroient les pies sur le champ. Et de l'orchestre du Noroua sur la barque des pauvres gens. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de tout seul et d'ensemble. Et l'archer du violoncelle. J'ai peur de là-haut, dans tes jambes. Et d'une étoile qui ruisselle. J'ai peur de l'âge qui dépaisse. De la pointe de son canif. Le manteau bleu de la jeunesse. La chair et les baisers à vif. J'ai peur d'une pipe qui fume. J'ai peur de ta peur dans ma main. L'oiseau libre et le poisson lune. L'éclair pierre du chemin. J'ai peur de l'acier qui hérisse. Le mur des lendemains qui chante. Du ventre lisse où je me hisse. Et du drap glacé où je rentre. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de pousser la barrière. De la maison des églantines, où le souvenir de ma mère berce sans cesse un berceau vide. J'ai peur du silence des feuilles qui prophétisent le terreau. La nuit ouverte, comme un œil, retourné au fond du cerveau. J'ai peur de l'odeur des marais. Palpitante dans l'ombre douce. J'ai peur de l'aube qui paraît et de mille autres qui la poussent. J'ai peur pour tout ce que je sers inutilement dans mes bras contre l'horloge nécessaire du temps qui me le reprendra. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur.
Avec des hiboux ensoleillés, comme les enfants du mois de mai qui reviendront cet automne après l'été de 1704. Ça ira, ça ira. ça ira. Ça ira. Ça ira. Ça ira.
Les copains de la neuille, les frangins de la Nike, ceux qui ont le portefeuille, plus ou moins all right, ceux pour qui la mouise, ça fleurit que le jour, qu'on le rouquin en guise de frisson d'amour. Les copains de cocagne, ceux qui ont des fafios et qui font des magnes à la veuve Cliquot, ceux qui comptent les heures sur leurs pattes en velours et qui ont une demeure pour y planquer le jour. Les copains de la farce qu'ont même pas du fait pour y foutre une garce ou pour y danser. Ceux qui poussent la lourde des minuits passées et qui n'ont comme gourde que celle du taulier. Les copains de la frime, ceux qui vendent le vent à des prix minimes quand il y a du client. Ceux qui ont la vie brève comme la fleur des champs et qui vivent en rêve pour gagner du temps. Les copains de la dure, ceux qui vivent pas cher, mais qui ont de la verdure, même en plein hiver. Ceux qui prennent la lune pour du Beaujolais, mais qui ont le clair de lune en dessous du gosier. Et les copains de la bise à l'âme gercée et qui se foutent en prise avec deux gorgées. Ceux qui comptent les heures sur les doigts de la main et qui se font leur beurre avec leur chagrin. Les copains et les frangins de la nuit, ceux qui bossent au noir jusqu'au bout de leur vie, ceux qui ont la vie louche comme un beau matin et qui se cousent la bouche en causant des mains. Et les copains de la neuille et les frangins de la nuit,